Aux États-Unis, la sidération a même gagné le camp des Républicains, le camp du président Trump. Je veux parler de cette extraordinaire conférence de presse Trump-Poutine à Helsinki lundi dernier. Petit rappel, je cite Donald Trump à propos de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. « Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait la Russie ». Fin de citation. Vladimir Poutine est ravi. Consternation à Washington. Certains parlent de trahison, de carnage diplomatique. Il faut dire que les services de renseignement américains disent depuis des mois que les Russes ont bien tenté d'influencer le scrutin présidentiel. Et là, en 24 heures, conscient des dégâts, virage sur l'aile du président américain. C'est laborieux, presque comique, tragicomique. Dans l'avion qui le ramène en Amérique, Donald Trump dit qu'il accepte les conclusions des services de renseignement. Un peu plus tard, à la Maison-Blanche, il explique sans rire que sa langue a fourché à Helsinki. C'était un lapsus. En fait, il voulait dire « Je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie qui se serait ingérée dans l'élection américaine. » Bouffon, écrivait Laurent Geoffrin dans Libération. Vraiment, eh bien, c'est notre thème ce soir. Faut-il s'inquiéter du comportement du président américain ? Nos invités, Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales. François Durpaire, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir, Pierre Veil.
Historien, spécialiste des États-Unis.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Joël, dans le Finistère. Bonsoir Joël, vous êtes le premier sur l'antenne ce soir et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci. J'ai une question très simple en fait. Je voulais savoir comment Donald Trump ne pouvait ne pas aller au bout de son mandat. Je sais qu'il y a des procédures, le terme n'est peut-être pas très bien prononcé, d'impeachment. Et je sais aussi qu'il y a des élections à mi-mandat avec peut-être l'arrivée des démocrates au pouvoir. Enfin, possibilité d'arriver des démocrates au pouvoir. Je voulais tout simplement savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire en sorte que la girouette de la Maison-Blanche puisse ne pas aller au bout de son mandat. Voilà.
Laurence Nardon.
Écoutez, oui, alors la réponse est complexe parce qu'il y a plusieurs procédures qui pourraient faire que le président soit démis avant la fin de son mandat. Je vous dis tout de suite qu'aucune n'est probable dans l'état actuel des choses. Et avant tout, dire que les élections de mi-mandat de novembre prochain, c'est un régime présidentiel. Donc même s'il perd, si le Parti démocrate remporte l'une des deux chambres, ça ne remettra pas en cause le régime du président Trump. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohabitation aux États-Unis comme on a pu en avoir en France. Ça, c'est une première chose. Pour ce qui est de l'impeachment dont vous parliez, c'est une procédure à la fois juridique et politique qui pourrait se mettre en route si jamais cette fameuse collusion des équipes de campagne de Trump pendant la campagne de 2016 avec des intérêts russes, des pirates informatiques russes, était avérée. L'enquête Mueller qui vise à faire la lumière là-dessus n'a pas encore rendu de conclusion. On peut douter qu'elle en rendra. Si elle en rend, qui sont vraiment condamnante pour le président, ce processus devient ensuite politique parce que l'impeachment, il est mis en route une fois qu'on a des preuves juridiques par le Congrès. C'est-à-dire que la Chambre des représentants met le président en accusation, c'est ce qu'on appelle précisément l'impeachment, et le Sénat, et si c'est voté, c'est le Sénat ensuite qui vote l'éventuelle condamnation du président. Donc on en est très loin parce que le président a pour l'instant le soutien des républicains de la Chambre qui sont d'une couardise totale. Et pour la bonne bouche, j'ajoute qu'il y a une autre procédure liée au 25e amendement à la Constitution. Si jamais le président est déclaré malade ou fou, ça pourrait aussi nous intéresser. Là, il y a une procédure différente qui se met en route pour le démettre de ses fonctions.
Bon, ça dure père, vous imaginez cette procédure de l'impeachment ? Non,
non. Non, non simplement, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il y a une enquête indépendante qui est menée aujourd'hui par Robert Mueller, procureur spécial, et qui, on pensait, pouvait aboutir à la convocation de Donald Trump devant un grand jury. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette convocation n'arrive pas, avec trois hypothèse possible, rapidement. La première hypothèse, c'est que Robert Mueller n'a pas suffisamment de preuves pour convoquer comme témoin le président des États-Unis. La deuxième hypothèse, c'est qu'il cherche le procureur spécial à éviter un litige avec les avocats du président, et on sait en particulier que Rudolph Giuliani, qui est l'un des avocats du président, a dit, de toute façon, le président ne se rendra pas à cette convocation. La troisième hypothèse, et qui n'est pas la moins improbable, est que le Robert Mueller a suffisamment de preuves, non pas pour faire du président un témoin de cette enquête, ouais. mais le sujet principal de cette enquête. Et donc, peut-être qu'il est en train plutôt d'accumuler des preuves contre le président des États-Unis. Il faut rappeler que Paul Manafort, par exemple, qui est l'un de ceux qui est inculpé par le Robert Mueller, n'a pas été convoqué devant le grand jury, mais a été mis directement en examen, pour reprendre un terme français.
Sur le site de l'émission, Jean-Michel nous écrit « Trump a-t-il une pensée cohérente ou est-ce le grand n'importe quoi, l'improvisation permanente d'un homme qui ne travaille pas ses dossiers, qui laisse divaguer son cerveau marqué par quelques idées simplistes et une profonde inculture générale et plus particulièrement diplomatique ?» François Durpaire, qu'en pensez-vous ?
Je pense que se polariser uniquement sur la psychologie de Donald Trump, c'est tentant, mais ça ne suffit pas à analyser ce qui se passe. Par exemple, prenez ce rapprochement avec la Russie. Est-ce totalement fou de se dire que la guerre froide a duré 40 ans et que la sortie de la guerre froide, qui peine, elle, dure 30 ans. Donc, qu'un président américain essaye de se rapprocher de la Russie en se disant 92% de l'arsenal nucléaire mondial est aux mains des Russes et des Américains, on va essayer de faire ce que le président précédent, Barack Obama, le reset, n'a pas réussi à faire. Ça, c'est pas quelque chose d'incohérent. Ce qui est incohérent, c'est le style, c'est la manière de faire. Mais on pourrait presque dire, c'est peut-être de la stratégie, c'est peut-être du flux d'informations qu'on continue contradictoire. Regardez d'ailleurs, Vladimir Poutine peut se dire ben, peut-être que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à Helsinki, et du coup je ne me vexe pas, puisqu'il a dit je suis innocent. Et peut-être que la communauté du renseignement peut se dire, bon, en fait non, le président, il reconnaît que c'est nous qui avons raison. Donc cette espèce de flux, je ne suis pas en train de le défendre, oui. mais en train de se dire que c'est pas forcément un trait de sa psychologie, c'est peut-être quelque part, une stratégie du président.
Laurence Nardon, l'improvisation permanente de Alors, Trump, enfin, c'est l'impression qu'il donne.
Il donne une impression de
Le grand n'importe quoi.
De grand n'importe quoi, mais en même temps, oui, c'est son style, je suis d'accord avec François Durpaire. Et du coup, moi j'ajouterais que, au contraire, il y a une très grande cohérence dans la vision politique de Donald Trump, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère. Il y a une grande cohérence, c'est Alors, le nationalisme, oui. c'est l'envie du repli, que ce soit sur les questions commerciales, on arrête le libre-échange, que ce soit sur l'immigration, on ferme les frontières. Et puis, sur tout ce qui est politique étrangère, il y a l'idée que le monde est un monde obscien, extrêmement agressif, c'est chacun pour soi, les alliances ne servent à rien, et les États-Unis doivent se défendre sans compter sur leurs alliés, c'est ce qu'on le voit faire depuis... très nettement depuis le début de l'année 2018. En 2017, il était un petit peu tenu par ses conseillers, par les contre-pouvoirs, etc. Ouais. Mais là, depuis le début de l'année, la guerre commerciale qu'il a lancée, etc., je vois pour ma part une grande cohérence de cette pensée nationaliste chez Trump.
François Durpaire, c'est donc America first, l'Amérique d'abord, c'est ça qui explique la politique de Donald Trump.
Mais si on prend les différents éléments de promesses de sa campagne électorale et ce qu'il a réussi à faire au bout d'un peu plus d'un an de pouvoir, on peut se dire que c'est pas le président le plus incohérent. Il est plutôt conforme à ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant la campagne, y compris cette séquence russe. On peut pas lui reprocher de ne pas avoir annoncé pendant la campagne qu'il se rapprocherait de la Russie, qu'il se rapprocherait de Vladimir Poutine. Ce qui est plus étonnant, c'est que cette rencontre avec Vladimir Poutine ne soit une rencontre qui n'ait lieu que plus d'un an après son arrivée à la Maison-Blanche. Mais ça, on le sait, c'est lié au Russiagate, à l'investigation oui. de Robert Mueller. Et donc, c'est plutôt un rapprochement contrarié. Mais en tout cas, c'était un rapprochement qui avait été annoncé.
C'est quand même étonnant. Enfin, il dit tout et le contraire de tout en 24 heures sur cette ingérence russe. Il n'y a pas d'ingérence russe. Et puis après, il dit, bah si, il y a une ingérence.
C'est pas seulement sur l'ingérence russe. Cette absolution de Vladimir Poutine, reprenez la séquence précédente. Vous pouvez, si vous aviez fait le même téléphone sonne, alors 10 jours avant, on aurait dit quoi ? C'est quand même extrêmement incohérent. Il arrive au Royaume-Uni, il donne une interview à un tabloïd qui s'appelle The Sun, où il critique vertement Theresa May. Et ça sort quand ? Le timing, au moment où il est en train de dîner avec elle, il est invité d'honneur. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il dit ? Mais non, mais que les relations n'ont pas jamais été aussi bonne avec le Royaume-Uni, qu'on va faire un traité de libre-échange extraordinaire avec le Royaume-Uni. Donc ça, c'est le style. Alors, peut-être qu'il faudrait s'habituer. Alors, il n'y a pas que nous qui avons du mal à nous ouais. habituer. Hein. Je peux vous dire qu'à la Maison-Blanche, aujourd'hui, la séquence est dure et rude. Alors, vous n'aurez pas de démission dans la semaine ou dans les 15 jours, mais vous pouvez quand même voir dans les semaines qui viennent, il y a une sorte de dépression dans les hauts fonctionnaires de West Wing, du département ouest de la Maison Blanche, où ils se disent mais on a du mal à travailler avec ce président. Oui, pour le coup, c'est un président qui, sur le style, est totalement différent de ce que l'on connaissait auparavant.
Laurence Nardon.
Oui, il y a un trait psychologique. Alors, les psychologues américains se refusent le droit de porter des diagnostics sur les hommes politiques, hommes et femmes politiques, qu'ils n'ont pas examinés directement. Ça, c'est une règle qui existe depuis les années 60. Néanmoins, avec Trump, ils ont été un peu mis le dos au mur parce qu'on leur a demandé franchement ce qu'il fallait en penser. Et il y a un certain nombre de psychologues américains qui ont d'ailleurs sorti un bouquin récemment pour expliquer que Trump souffre de désordre narcissique de la personnalité. Et l'un de ces désordres, c'est le fait que très souvent, quand il reconnaît la personnalité forte de quelqu'un avec lequel il se trouve, il n'ose pas le contredire et il se montre extrêmement aimable avec lui. On a vu cette séquence avec Xi Jinping en avril 2017. On l'a vu sans doute avec Kim Jong-un, avec Poutine. C'est-à-dire que quand il est en présence de la personne et qu'il reconnaît dans cette personne un mâle dominant, il est extrêmement conciliant dans sa présence. Ce qui n'empêche pas de tweeter avant, après ou de donner des interviews au Sun avant, après, qui vont trancher sur ce qu'il a dit en présence de la personne. Je pense que là, il y a quand même, effectivement, il ne faut pas quand même passer à côté de la psychologie du personnage. Qui
faible
est extrêmement,
avec les forts et fort avec les faibles.
Oui, d'ailleurs, ça tendrait à dire qu'il a pris Theresa May pour quelqu'un d'assez fort, finalement, ce qui n'est pas l'impression qu'elle donne tout le temps. Mais bon, c'est un autre sujet.
Alain, qui se trouve à l'île d'Oléron. Bonsoir Alain, bienvenue sur l'antenne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Alain. Ah, si vous êtes sur un téléphone portable, attention, ça ne passe pas très bien. Déplacez-vous un peu. Allez-y, Alain, allez-y. Ah là là, les téléphones portables. C'est pratique, bien sûr, mais alors, quand on
est passé du téléphone sonne au téléphone portable
voilà,
sonne.
Quand on fait de la radio, c'est quelquefois un peu difficile. Alain, est-ce que vous êtes là, une fois?
Non. Vous entendez correctement.
Voilà, là ça va. Allez-y, posez votre question.
Alors, je voulais que vous abordiez le problème de la position et de l'influence, à mon avis plutôt néfaste, des églises évangélistes aux États-Unis et notamment dans le proche entourage de Donald Trump.
Alors, sur cette influence des églises évangélistes auprès de Trump, Laurence Nardon ?
Oui, ben je veux... Alors effectivement, les évangéliques, ce sont les protestants qui ne sont pas mainstream, protestants traditionnels, mais des protestants très fervents et très stricts sur les questions de morale. Ils sont plutôt au sud du pays, ils représentent 25% de la population américaine. Et très curieusement, Alain a raison, ils soutiennent Trump depuis sa campagne, ce qui au départ n'allait pas du tout de soi, parce que Trump n'est pas du tout... dans la même morale que ces gens-là. Trump a divorcé deux fois. On le voit jamais à l'église le dimanche. Les homosexuels ne lui posent pas plus de problèmes que ça. Enfin, il est pas du tout sur la même ligne de morale chrétienne très très stricte et rétrograde que ces évangéliques du sud des États-Unis. Or, ils ont passé un pacte avec avec le candidat à l'époque qui leur a promis de nommer un vice-président, Mike Pence, qui est donc en l'occurrence un catholique born again, une sous-catégorie de ces évangéliques. Et il leur a promis quelque chose d'extrêmement important, qui est de nommer des juges à la Cour suprême et dans le reste de la pyramide judiciaire aux États-Unis, des juges extrêmement conservateurs. Donc on a eu Neil Gorsuch qui a été déjà nommé à la Cour suprême. Là, il vient de nominer le juge Kavanaugh pour remplacer un autre juge de la Cour suprême qui a démissionné. Ces juges sont nommés à vie. Et donc, il est en train de transformer la jurisprudence des États-Unis pour les 20 à 30 ans à venir dans un sens extrêmement préoccupant sur le plan de la morale et des questions de société. Et donc, je pense que c'est l'objet du pari.
Voilà, et ce soir, on apprend que l'ex-avocat personnel de Donald Trump a enregistré une conversation à l'insu de ce dernier, dans laquelle les deux hommes évoquent un paiement à une ancienne playmate avec laquelle le président des États-Unis aurait eu une liaison. C'était avant qu'il ne se trouve à la Maison-Blanche.
Oui, alors, c'est la même Stormy Daniels, hein, c'est une actrice porno. Oui. On savait déjà ça. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le FBI a perquisitionné chez Michael Cohen, qui est l'avocat des bases œuvres de Donald Trump, et qu'il a trouvé cet enregistrement où Michael Cohen et Donald Trump parlent, évoquent ce paiement de plus de 100 000 dollars à cette actrice pour ne pas parler, pour ne pas évoquer cette relation. Je pense qu'il faut quand même réinsister et auprès des auditeurs sur ce qui vient d'être dit. Donald Trump, il n'est pas orthodoxe, il est populiste, il n'est pas conservateur, bon teint. Sur les questions de politique étrangère, il fait exactement l'inverse de ce que les Républicains souhaiteraient, remettant en cause l'OTAN.
Sur
les questions de l'économie, il fait exactement l'inverse de ce que les Républicains bon teint souhaiteraient. Guerre commerciale, remise en cause du libre-échange. Le seul point sur lequel il est totalement orthodoxe sur le plan de son conservatisme, c'est la question de la Cour suprême. Ouais. Et là, il faut quand même d'un mot dire à ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Cour suprême, dire que c'est là, c'est à la Cour suprême que se jouent les évolutions de la société américaine. C'est la Cour suprême qui a ségrégué le pays, puis qui l'a déségrégué. C'est la Cour suprême qui a fait le droit à l'avortement. La France fonctionne par la loi. Les États-Unis fonctionnent par la justice. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que en nommant Gorsuch puis Kavanaugh, cette Cour suprême, effectivement, elle devient conservatrice pour une trentaine d'années. Et j'allais dire que c'est pas fini, parce que la juge qui est à la tête de la Cour suprême, le juge Ginsburg, le juge Breyer, sont des juges qui ont plus de 70 ans. Imaginons que Donald Trump soit réélu, il pourrait très très bien nommer encore deux juges conservateurs à la Cour suprême, à tel point que cette question institutionnelle, qui est la plus fondamentale, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on dira ce soir. C'est parce qu'un président, ça dure 4 ans. Donc Donald Trump, vous pouvez dire, il est fou, on fait le dos rond, etc. Mais la Cour suprême, ça dure 30 ans. Donc ça veut dire, est-ce que le droit à l'avortement va être remis en cause? Est-ce que le mariage entre personnes de même sexe, qui date que 2015, va être remise en cause? Est-ce que le droit à porter des armes ou pas, c'est la Cour suprême aussi qui le détermine. Là, il est en train d'imprimer un virage conservateur, alors que jusqu'à maintenant, puisqu'ils sont neufs à la Cour suprême, il y avait une sorte d'équilibre avec un juge pivot, et parfois ça tournait du côté conservateur, parfois ça du côté progressiste.
Voilà, virage conservateur, et donc le fait que ce soir on apprenne voilà, qu'il a payé une playmate pour une relation, on découvre que cet homme, bon, bah, il payait de nombreuses femmes pour avoir des relations, ça choque alors, pas ça, c'est les pas, Américains.
Attendez, le paiement là, c'est pas un paiement pour une relation, de ce que je vois de ce qui s'est passé, c'est là, le paiement qui est en question, ça serait la preuve qu'il aurait payé pour éviter que Stormy Daniels n'évoque cette relation. Oui. Après, on ne connaît pas le contenu, mais c'est la perquisition.
Ah, c'est le prix du silence.
C'est le prix du silence.
Et tout ça, ça ne choque pas trop.
Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Bon. Mais vous savez, écoutez, vous vous rappelez de ce qu'on a appris 10 jours avant l'élection? On a entendu une bande où Donald Trump disait des mots qu'on ne va pas répéter ici, et parler des femmes et de la manière de se comporter avec les femmes. Alors, nous, de ce que l'on sait des États-Unis, on aurait pu se dire, ça y est, c'est terminé, l'élection, elle est pliée. Cet homme qui vient de dire, entre le féminisme américain et le puritanisme américain, il y a suffisamment de conservateurs d'un côté et de progressistes féministes de l'autre pour que ce qu'il vient de dire est complètement rédhibitoire.
Pas
mais non.
Voilà.
Et pourquoi? Ben parce qu'on a posé une question aux Américains. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette bande sonore? Non. Donald Trump, on le connaît. On le connaît pas depuis 10 ans, depuis 20 ans, on le connaît depuis 30 ans. On sait qu'il est comme ça et c'est pas ça qui a déterminé l'élection. Il a écrasé l'establishment médiatique, l'establishment politique. Et on a connu ça un petit peu en France, hein, un coup de balai de la classe politique traditionnelle. C'est ça, Donald Trump.
Yvon à Auxerre, bonsoir Yvon.
Bonsoir et bonsoir. Merci beaucoup d'avoir pris ma question.
Je vous en prie, allez-y.
Monsieur Trump a été élu par un électorat.
Monsieur Trump est le miroir de son électorat. Est-ce que vous pouvez me faire le profil de l'électeur de base sudiste de Trump ?
Voilà, et pour compléter ce que vous venez de dire, Yvon, ce courriel de Denis, tout le monde critique sévèrement Trump, mais il y a bien des gens qui le soutiennent. Qui sont-ils, Laurence Nardon ?
Alors, l'électorat de Trump, qui le soutient encore à 45% de l'ensemble des Américains aujourd'hui, ça a peu varié depuis deux ans. Alors, il est constitué donc des évangéliques, c'est ceux dont on vient de parler tout à l'heure, qui sont au sud et qui sont très à cheval sur les questions de morale et qui ont donc élu Trump pour qu'il nomme les juges et qu'ils obtiennent les jurisprudences qu'ils souhaitent sur les questions de morale. Ça, on vient d'en parler longuement. L'autre partie de son électorat, ce sont les populistes. Et ça, alors ça, c'était ce qui était le plus nouveau dans cette élection. Ce sont en fait des gens de la classe moyenne. Les sondages de sortie des urnes ont permis de les cibler de manière assez claire. Ce sont des gens qui sont plutôt blancs, plutôt peu ou pas diplômés, et qui sont donc dans un niveau de revenu classe moyenne basse. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus pauvres des Américains, les plus pauvres des Américains étant très souvent issus des minorités, noirs et latinos. Et donc, cette classe moyenne blanche a voté Trump. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a su capter son angoisse, ses angoisses sur le plan économique, puisque ce sont pour beaucoup des gens dont les usines ont fermé. Ils sont pas dans le sud nécessairement, puisque dans le sud, ce sont plutôt les évangéliques dont nous parlions tout à l'heure. Ils sont plutôt dans la région des Grands Lacs qui sont dans le nord-est, autour du lac Michigan, etc., dans l'Illinois. Ce sont des gens dont les usines ont fermé depuis que la Chine est entrée à l'OMC, depuis que un traité de libre-échange a été conclu avec le Canada et le Mexique, l'ALENA, en 1994. Donc ce sont des gens qui ont souffert économiquement, ils sont dans l'angoisse. Et puis, deuxième thème d'angoisse pour ces gens-là, ce sont évidemment les questions identitaires, puisque aux États-Unis, c'est très frappant, c'est un pays où on répète le bureau du recensement qui a le droit de faire des statistiques ethniques, ce qu'on appelle droit de faire en France, annonce depuis plusieurs années que dans les années 2040, la population blanche dans le pays deviendra minoritaire. Ça passera en dessous de la barre des 50%.
Blanc non hispanique. Hein.
Blanc non hispanique. Et donc, voilà, c'est un fait, mais il a su attiser une angoisse identitaire chez cette classe moyenne qui est déjà angoissée sur les questions économiques et qui souffre, par exemple, de surdoses aux opioïdes. Vous savez, il y a cette espèce d'épidémie d'addiction aux médicaments à base d'opioïdes qui fait des ravages dans cette catégorie de la population. J'ajoute les petits blancs des Appalaches, qui sont une région très très pauvre au milieu. Voilà, monsieur, à peu près l'électorat de Trump. Il y a des indépendants et des républicains modérés qui ont voté aussi pour lui en 2016, mais qui sont sans doute ceux qui ont changé d'avis depuis.
Laurence, on pourrait peut-être aussi préciser qu'il a aussi beaucoup de gens riches qui ont voté pour lui. Il n'y a pas uniquement, effectivement, il y a cette classe moyenne. Il y a c'est très important parce que le système américain est un peu différent du nôtre. Il est très territorialisé. Il faut gagner des États. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir gagné des États. Très surprenant, hein, cette Rust Belt qui avant était un mur bleu et qui est devenu rouge pour voter pour Trump. Mais quand on regarde ce qu'il a fait passer au Congrès, on voit qu'il n'est pas que la clientèle de la classe moyenne américaine, qu'il est aussi la clientèle de la classe, et on en a moins parlé, de la classe supérieure. Il a réussi à cette coalition de la classe moyenne et classe moyenne inférieure et des beaucoup plus aisés qui disent que Trump se comporte mal, mais qui sont très contents de la manière dont Donald Trump dirige le pays et en particulier de ses déréglementations.
Voilà, c'était François Durper, je rappelle, historien spécialiste des États-Unis et membre du laboratoire Bonheur de l'université de Cergy-Pontoise. Laurence Nardon est notre autre invité ce soir, responsable du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales. Beaucoup d'appels au standard. Frédéric à Montpellier. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, bonsoir.
C'est à vous.
Alors, j'ai une question, je vais un peu mettre les pieds dans le plat et parler franchement. Alors, au regard des agissements, des interventions du président Trump et de ce qu'il est en train de produire sur la politique extérieure américaine, mais aussi à l'intérieur, à ce qu'en fait tous ces agissements ne seraient pas juste une en fait une commande presque. J'exagère un peu, mais en fait c'est un peu le cas de Poutine en fait pour déstabiliser, discréditer la politique extérieure américaine, séparer les États-Unis de ses alliés traditionnels, l'Europe, l'Angleterre, et en fait ridiculiser carrément la politique extérieure américaine aux yeux du monde entier.
Alors, pour compléter ce que vous dites, Frédéric, ce courriel que nous avons reçu de Muriel qui nous dit, est-ce qu'en fait les Russes ont quelque chose, quelque chose sur Trump qui ferait que les Russes le tiennent? On parle d'une vidéo compromettante, même le New York Times, journal sérieux, pose la question. Qui veut
oui, ça du repère? Oui, bah deux hypothèses pour cette absolution de Vladimir Poutine. La première hypothèse, c'est que Donald Trump ne veuille pas reconnaître le rôle de Vladimir Poutine dans l'élection. Parce que ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le 6 janvier 2017, les services de renseignement américains, le 6 janvier 2017, c'est très tôt, il n'est pas encore à la Maison-Blanche, il a été élu. Convoque le nouvellement élu président et lui disent « voilà ce que l'on sait, les Russes ont interféré dans l'élection qui vient de se passer et le donneur d'ordre, c'est Vladimir Poutine ». Voilà ce qu'ont dit toutes les agences de renseignement américains. Donc il le sait depuis le 6 janvier 2017, hein. C'est pas quelque chose qu'il découvre. Et Helsinki dit « non, non, moi j'ai pas de raison », même si après il y a eu le lapsus ou le note. Alors pourquoi dit-il cela? Pourquoi cette absolution à Vladimir Poutine? Soit le fait de reconnaître cette ingérence, c'est une manière de discréditer un peu sa victoire. C'est une manière de dire j'ai battu Hillary Clinton parce que j'ai été aidé par une puissance étrangère. Donc ça c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est effectivement, est-ce que les Russes tiennent quelque chose, ont un dossier qui fait que Donald Trump, eh bien, serait le pantin, serait le jouet de la Russie. Et ça, c'était une thèse qui, il y a quelques mois, apparaissait comme farfelue, voire complotiste, et qui aujourd'hui envahit une grande partie de la presse américaine comme une hypothèse sérieuse dans cette affaire. Est-ce que les Russes ont effectivement quelque chose? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux vainqueurs de la séquence. C'est Xi, c'est la Chine, et c'est Vladimir Poutine, la Russie. Parce que la grande question, c'est que le bloc occidental, Vladimir Poutine, on le voit bien, n'en veut pas. Il n'est pas pour une sorte de bloc occidental commercial contre la Chine et démocratique contre la Russie. Lui, il est pour des relations bilatérales avec la Chine, avec la Russie. Et de ce côté-là, eh bien, il remet en cause les vieilles alliances traditionnelles de l'Amérique, Allemagne, Grande-Bretagne et France.
Justement, on a ce courriel. Pourquoi Trump déteste l'Europe et semble préférer des dictateurs comme Poutine ou Kim Jong-un? C'est affligeant, nous dit cet auditeur, quand on pense à l'histoire, les liens que nous avons avec l'Amérique depuis les deux guerres mondiales du XXe siècle. Laurence Nardon.
Oui, il voit les relations internationales comme quelque chose de transactionnel. C'est-à-dire que ce que quelqu'un gagne, l'autre le perd. C'est toujours un jeu à somme nulle. Et donc, les alliés, de ce point de vue-là, ont pas grand-chose à apporter, puisqu'on est déjà dans son camp. En revanche, là où il a des choses à gagner, c'est en discutant avec des autocrates pour essayer de faire le meilleur deal, pour reprendre une expression qu'il apprécie. Mais pour revenir à la question de l'auditeur précédent sur la Russie, je voudrais compléter ce qu'a dit François. C'est qu'effectivement, il y a cette fameuse hypothèse un peu complotiste selon laquelle Vladimir Poutine, je manque de respect, aurait effectivement un dossier, c'est le dossier style, donc avec cette vidéo légèrement sulfureuse qu'il aurait recueillie sur Trump lors d'un concours de beauté en 2013 à Moscou, enfin bref. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est vrai, en revanche, et c'est tout à fait préoccupant, c'est que la Russie de Poutine aujourd'hui, elle cherche à affaiblir nos démocraties, puisque dans la vision de Poutine, l'Occident est un Occident décadent parce que la démocratie ne fonctionne pas très bien. C'est finalement un système de faibles. Je passe rapidement sur tout ce qu'il peut dire sur l'Occident décadent à cause de la reconnaissance de l'homosexualité. Il y a quand même un discours extrêmement fort là-dessus en Russie. Et je termine en disant que les États-Unis ne sont pas le seul pays dans lequel les usines à trolls russes ont envoyé des messages par milliers Vous savez, ce sont des robots qui envoient des messages sur les comptes Facebook ou les comptes Twitter ou je ne sais quoi, les sites internet des internautes dans les pays pour les convaincre de voter pour un tel et pas pour un tel. Ils ont fait ça, c'est avéré par les agences de renseignement aux États-Unis, mais ils l'ont fait également en Allemagne. Ils ont essayé de le faire en France. On l'a su avant l'élection de 2017, sans parler évidemment des pays d'Europe centrale où c'est monnaie courante.
On nous demande, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que Trump a eu à un moment un entretien là à Helsinki avec Poutine sans aucun témoin, aucun conseiller François Durpère,
là encore, aussi, on toutes dit, les hypothèses. Ouais, est-ce que ça circule, Donald Trump se disant, je vais peut-être être interrogé par Robert Mueller par le procureur spécial. Ouais. Est-ce qu'il veut savoir ce que Vladimir Poutine a réellement fait ? Est-ce que Vladimir Poutine, d'ailleurs, lui aurait dit mais en tout cas, il y a un trou de 2 heures. Ça, c'est très clair et net. On a un trou dans leur conversation. Qu'est-ce qu'ils se sont dit de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce qu'ils se sont parlé de ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est un trou de l'actualité. Ça restera peut-être pas éternellement un trou de l'histoire.
Étienne, à Lyon. Bonsoir, Étienne. Merci d'être avec nous. C'est à vous.
Oui, Étienne, allez-y. Bonsoir et merci. Oui, ma question, c'était aussi de se poser la question de quel était l'après Trump finalement. J'entendais l'un de vos interlocuteurs dire que après, enfin, dans 4 ans, il y aurait plus Trump, à moins qu'il, enfin, ou dans 2 ans, il y aurait plus Trump, à moins qu'il soit réélu. Mais est-ce qu'il y aurait pas un biais qui serait créé avec l'élection de Trump aujourd'hui pour finalement une espèce de course en avant ou course à l'échalote pour plus de populisme et faire du Trump en fait pour gagner les élections et faire du Trump, c'est aller à l'encontre du débat politique et d'une vision politique à long terme dont on a besoin aussi, j'imagine, quoi, surtout aux États-Unis.
François Durpère.
Alors la place du spectacle dans l'élection présidentielle américaine, elle ne date pas de Donald Trump. Je pense que vous auriez pu avoir des auditeurs qui, en 1960, auraient dit, entre Nixon et Kennedy, il n'y a pas de contenu, c'est le règne de la télé, des petites phrases, on n'est pas sur le contenu. Donc, évidemment, là, on peut se dire, à chaque fois, on franchit...
Ça s'est pas arrangé.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette question de l'auditeur, c'est de se dire, effectivement... quoi après ? Alors, avant de se dire quoi après le président, savoir déjà si en novembre, les démocrates vont gagner l'une des deux chambres ou les deux chambres, le Sénat ou la Chambre des représentants. Et ça, c'est pas gagné. C'est-à-dire que vous remarquez d'ailleurs quand l'émission va s'achever, c'est la première fois qu'on parle des démocrates, de l'opposition. Donc, on a parlé beaucoup de Trump, mais très peu de l'opposition à Trump. Mais pourquoi ? Mais parce que l'opposition à Trump, elle est quand même assez inaudible. C'est-à-dire que détester Trump, ce n'est pas une plateforme électorale. L'idée qu'il y aurait une blue wave, une vague bleue en novembre prochain parce que Donald Trump est spectaculaire dans son comportement et parce qu'une partie de l'Amérique le déteste, c'est un peu facile pour les démocrates. On disait aussi 98% de chance pour Hillary Clinton l'emporte. Et ça ne s'est pas produit.
Et lui, il dit qu'il est certain d'être réélu, que personne ne peut le vaincre, s'opposer à lui dans 2 ans.
La réalité, c'est qu'il y a plutôt une prime à la réélection du président. On le voit, c'est l'histoire électorale américaine. Et qu'il s'effrite assez peu dans son propre électorat. Et quelque part, ça lui donne une certaine liberté. Il sait qu'il ne va pas se faire aimer par ceux qui ne l'ont jamais considéré même comme leur président. Et qui va avoir du mal à se faire détester par ceux qui vont le soutenir jusqu'au bout et qui disent « il n'a pas fait de mur ». Oui, mais c'est parce que le système l'empêche de faire son mur. Donc ça veut dire que même les promesses qu'il n'arrive pas à tenir, ben son discours parvient quand même à convaincre son électorat de base.
Oui, d'ailleurs, on nous écrit cela. Il déteste les experts en diplomatie, semble-t-il, et tout ce qui représente l'État fédéral à Washington, la haute administration, cela ressort de tous ses propos.
Il appelle ça le deep state.
C'est son populisme.
L'État profond.
Deep state. Ouais, ça fait partie du populisme.
C'est le refus. Voilà. C'est le populisme de gauche qui s'oppose aux élites. Populisme de droite s'opposant aux étrangers.
Là encore, question d'auditeur sur le site. C'est un personnage Trump farfelu, un iconoclaste, un instable mentalement. Pourtant, a-t-il vraiment la liberté du feu nucléaire ? Laurence Nardon.
Ah, normalement oui, mais on sait que sous Nixon, à la fin de quand Nixon buvait son vers la fin avant qu'il ne démissionne en 73, son secrétaire à la défense de l'époque, qui était Schlesinger, avait demandé à ce que si jamais le président donne l'ordre du feu nucléaire, on le prévienne d'abord. Et je me demande si James Mattis, qui est aujourd'hui le secrétaire à la défense de Trump, n'a pas poser la même condition aux responsables militaires.
Oui, il est bordé aussi,
en tout cas, hein.
Bordé aussi par Mike Pompeo, secrétaire d'État, bordé aussi par John Bolton, conseiller.
Ouais, oui, imaginez, enfin, eux sont très interventionnistes, donc ça n'est pas très rassurant.
Mais d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que des John Bolton ou des Mike Pompeo, qu'on a commenté comme des abominables faucons il y a quelques semaines quand ils ont été nommés, aujourd'hui on en fait les adultes de la Maison-Blanche. Ouais. Ce sont eux qui ont tendu le papier à Donald Trump pour qu'il reconnaisse que la Russie avait interféré dans l'élection.
Laurence Nardon, vous évoquiez la présidence de Nixon, il buvait, et on nous demande sur le site, est-il pire, Trump, le pire incompétent à la Maison-Blanche, si on regarde l'histoire américaine, dans le genre, nous écrit cet auditeur, George W. Bush était pas mal non plus. Ah oui. Souvenez-vous de sa réaction dans une école le 11 septembre 2001. François Durper.
Je ne veux pas être provocateur, mais aujourd'hui aux États-Unis, vous n'avez quasiment pas de chômage, vous avez des impôts qui ont baissé. Vous pouvez considérer, quand vous êtes américain, que votre président n'est pas fou ou qu'il est incompétent. Vous pouvez considérer, au bout d'un an et demi, que vous avez un bon président des États-Unis. Alors, et l'historien, lui, il attend généralement avant au moins la fin du mandat ou des deux mandats pour considérer si on a affaire à un bon ou à un mauvais président, sachant que justement, cette écume de son comportement, est-ce que l'historien va retenir sur tout ça ? Nous, on est vraiment polarisés par son comportement, par sa psychologie. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller au-delà. Par exemple, sa remise en cause de l'Alliance Atlantique. John Foster Dulles, secrétaire d'État dans les années 50, disait déjà que les Européens ne dépensaient pas assez d'argent. C'est pas lui qui a inventé le protectionnisme américain, Donald Trump. C'est pas lui qui a inventé l'isolationnisme, Donald Trump. Donc peut-être qu'on va, à un moment donné, séparer le Donald Trump, la psychologie de Donald Trump, le comportement de Donald Trump, l'aspect Twitter, évidemment, qui là est complètement nouveau, et puis des lignes de fond dans sa politique qui, pour le coup, et ça a été dit tout à l'heure par Laurence, n'est pas si incohérente que cela.
Laurence Nardon, sur les prédécesseurs, c'est vrai qu'on peut citer Ronald Reagan, George W. Bush, c'était pas de grands esprits, de grands intellectuels.
Non, mais ils avaient leur cohérence eux aussi, ouais. et je pense à nouveau que Trump a sa cohérence. Mais si vous permettez, j'aurais voulu aussi revenir sur le Parti démocrate, parce que je pense que si on parle du fond, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, je pense que la faiblesse du Parti démocrate dans l'élection de novembre prochain et son impossibilité jusqu'à présent de trouver un candidat pour 2020 est extrêmement préoccupant. Je pense que sur le fond, le Parti démocrate aujourd'hui ne sait pas dépasser la posture anti-Trump, et peut-être plus grave encore, est coincé dans une politique qui a été celle qu'a proposé Obama puis Hillary Clinton pendant la campagne, qui consiste à servir des segments de population les uns après les autres. Donc il y a la politique pour les Afro-Américains, politique pour les Latinos, pour les gays, les femmes, etc. Et ils ne savent pas proposer un projet global pour la population, ce qu'attendent beaucoup d'Américains. Et d'une certaine manière, Trump, dans sa politique populiste identitaire, n'a fait que rajouter un segment de population à défendre. Ouais. Les Blancs, à tous ceux d'ailleurs, que le Parti démocrate défend depuis les années 60.
Il sert aux Blancs, Donald Trump sert aux Blancs le discours victimaire jusqu'à maintenant s'appliquait aux minorités. En disant aux Blancs, c'est vous les victimes. En disant aux hommes, c'est vous les victimes. On vous a dit, la gauche américaine vous avait dit depuis 30 ans que les femmes étaient les victimes, que les Noirs étaient les victimes. Non, vous êtes les victimes. D'où le hashtag Walkaway, qui est un hashtag venant du Parti démocrate, pour dire, vous êtes des minorités, vous êtes des gays, etc., ne votez pas nécessairement démocrate. Mais ça, pour moi, c'est un débat qui est très largement dépassé. Pourquoi ? Parce que Hillary Clinton, elle n'a pas eu l'électeur blanc, mais elle n'a pas eu non plus l'électeur noir. Barack Obama, il a eu l'électeur noir et il a eu aussi l'électeur blanc. Donc cette espèce de débat entre est-ce qu'il faut choisir une gauche multiculturelle ou une gauche sociale, c'est très intellectuel, mais électoralement, c'est pas pertinent.
Oui, mais sur le Laurence fond, Nardon. Ça veut bien dire. Enfin, il y a vraiment un problème de fond. Et nous, Français, ça nous parle. C'est que aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus d'universalisme. Il n'y a que la collection de défense victimaire de minorités, Trump ayant ajouté la sienne à celui que présentait le Parti démocrate.
Oui, mais l'élection d'Obama en 2008, ce n'était pas une élection de juxtaposition de minorités. Il a eu, c'est le président démocrate qui est en noir, mais a eu le plus grand nombre d'électeurs blancs élisant un démocrate. Donc ce débat, il est pour moi très large. C'est le grand débat chez les démocrates, hein, mais c'est un débat qui est très intellectuel et qui électoralement se tient pas.
Jackie anime, ce sera le dernier appel au cours de l'émission. Bonsoir Jackie, bienvenue. Soyez pas trop long parce que malheureusement il nous reste une minute. C'est catastrophique.
Tout à fait. Bonsoir, je vais faire très court. Alors, on essaye de qualifier la politique de Donald Trump, mais en fait elle est assez claire. C'est make money, make money, make money.
Faire de l'argent.
Et donc,
gagner
pour faire court, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en place la Banque européenne qui était souhaitée par Michel Rocard pour contrer justement ces velléités d'expansionnisme américain et de division des sociétés, notamment en ce qui concerne l'enjeu de l'environnement qui est absolument abandonné par Donald Trump, mais aussi par les multinationales. Et donc, il faut absolument que nous ayons une politique dans ce sens et européenne.
Laurence Nardon.
Make money, c'est vrai, mais ça n'inclut pas tout le nationalisme qu'évoque Trump. Je pense que votre définition est juste, mais elle n'est pas complète. Et quant à l'environnement, évidemment, vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe est extrêmement grave.
C'est un défi pour l'Europe, mais Laurence a raison. Simplement, il faut regarder que dans la fin de notre séquence, la séquence Trump, il y a quand même de moins en moins de références à autre chose que des intérêts, mais le leadership moral de l'Amérique. Vous avez cité George W. Bush, vous avez cité Reagan. Regardez les discours de Reagan et George W. Bush. Vous avez, qu'on soit d'accord ou pas, mais il y avait quand même des références au bien, au mal, des choses qui n'existent plus.
Un moralisme américain.
Un moralisme, un exceptionnalisme qui n'existe plus dans les propos de Donald Trump.
Le nationalisme de Trump n'est pas moraliste.
C'était le téléphone sonne. Merci à nos invités. Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales. François Durpère, historien, spécialiste des États-Unis et membre de du laboratoire Bonheur. C'est quoi le laboratoire
Bonheur? C'est un laboratoire consacré à l'éducation au bonheur.
Très bien, à l'université de Cergy-Pontoise. C'était le téléphone sonne. Merci à toute l'équipe qui permet la réalisation de cette émission cette semaine à la technique. Il y avait du monde. Renan May, Henri Bérec, Valentin Azan, Clément Berman, Pierre Faucillon et Loïc Frapsos. Bravo, merci à vous à la réalisation. Lucie Lemarchand et la préparation de l'émission. Caroline Baudry, Simon Aresta et Pierre Desertaines. Voilà, j'ai tout dit. À la semaine prochaine. Il est 20h et quelques secondes.